En ce dimanche matin, premier dimanche de carême, je n'ai pas choisi les textes, j'ai pris ceux que nous indiquaient nos listes de lectures œcuméniques. Et je me suis laissé guider par eux. Le premier texte, nous le trouvons dans le livre de la Genèse, au chapitre 9, les versets 8 à 15, vous les connaissez certainement bien. Dieu dit alors à Noé et à ses fils, « Je vous fais une promesse, ainsi qu'à vos descendants, et à tout ce qui vit autour de vous, oiseaux, animaux, domestiques ou sauvages, ceux qui sont sortis de l'arche et tous ceux qui vivront à l'avenir sur la terre. Voici à quoi je m'engage. Jamais plus la grande inondation ne supprimera la vie sur la terre. Il n'y aura plus de grande inondation pour ravager la terre. » Et Dieu ajouta, « Voici le signe que je m'y engage envers vous et envers tout être vivant, aussi longtemps qu'il y aura des hommes. Je place mon arc dans les nuages, il sera un signe qui rappelle l'engagement que j'ai pris à l'égard de la terre. Chaque fois que j'accumulerai des nuages au-dessus de la terre et que l'arc-en-ciel apparaîtra, je penserai à l'engagement que j'ai pris envers vous et envers toutes les espèces d'animaux. Il n'y aura jamais plus de grandes inondations pour anéantir la vie. » Le deuxième texte, dans l'évangile de Marc, au chapitre 1, les versets 12 à 15. Tout de suite après le baptême de Jésus, tout de suite après, l'Esprit le poussa dans le désert. On pourrait même dire le bouscula, si on s'en tient à la littéralité du texte. Tout de suite après, l'Esprit le bouscula dans le désert. Jésus y resta pendant 40 jours, il fut tenté par Satan, il vivait parmi les bêtes sauvages et les anges le servaient. Et puis ensuite, dans la première épître de Pierre, au chapitre 3, les versets 18 et 19. En effet, le Christ lui-même a souffert une fois pour toutes pour les péchés des humains. Innocent, il est mort pour des coupables afin de vous amener à Dieu. Il a été mis à mort dans son corps humain, mais il a été rendu à la vie par le Saint-Esprit. Par la puissance de cet Esprit, il est même allé prêcher aux esprits emprisonnés. Seigneur, ta parole est la vérité, conduis-nous dans toute la vérité. Et je vous invite à vous lever pour chanter au cantique 297, les strophes 1, 2 et 4. 297, 1, 2, 4. Ô Dieu des grâces éternelles, et louange ton amour fera de toutes choses nouvelles, prépare-nous pour ce grand jour. Ô vrai auprès des sources
la voie est suivie. Liez les agneaux, allons à lui, qu'il convie auprès des sources de la vie. La foi doit se changer en vue, une autre aurore suit le jour. Ainsi la grâce est attendue, ainsi la gloire est notre espoir. Regardons plus haut que la nuit, et que la foi se change en vue.
Seigneur, tu es le Maître et nous sommes tes disciples. C'est de toi que nous avons tout à apprendre. Cependant, nous sommes lents à comprendre et à croire ce qui concerne ton royaume. Mais tu nous as promis ton esprit de vérité pour nous conduire dans toute la vérité. Ouvre nos oreilles et dispose nos cœurs afin que nous recevions ensemble et maintenant la connaissance du salut que tu accordes aux hommes. Ce matin, premier dimanche de carême, j'aimerais pouvoir proclamer « Le carnaval, c'est fini ». Monsieur Carnaval à Nice va être brûlé, à Venise la fête touche à sa fin, à Rio elle est finie. Eh bien j'ai peur que ces mots n'aient plus beaucoup de sens aujourd'hui. Le carnaval, vous le savez, c'est ce temps un peu particulier que l'on trouve dans toutes les sociétés, toutes les cultures, depuis le tréfonds des âges de l'humanité. Certains y ont vu la trace de vieux rites agricoles liés à la succession des saisons. Ainsi, avant de faire la jonction avec le temps de l'éclosion de la végétation que le printemps et l'été allaient provoquer, avant le temps de l'utilisation parcimonieuse des dernières provisions de l'année, dans une espèce de générosité débridée, on consommait sans frein les denrées périssables, à la fois par précaution, car il fallait bien arriver en bonne forme au temps de la reprise du travail intensif que nécessitait la terre en renaissance, mais aussi comme un exorcisme destiné à prouver, à se prouver, que les récoltes à venir seraient bonnes, que les troupeaux seraient féconds, et que dans la confiance en l'avenir, on pouvait se permettre quelques excès. D'autres savants, ethnologues, anthropologues, historiens, y ont vu aussi un autre sens. L'homme en société, le zoon politikon d'Aristote, est et demeure un homme animé par une violence qui, pour permettre la vie commune, doit être régulée. Un certain ordre contraignant doit être établi. Quelles que soient ses formes et ses origines, il apparaît comme une nécessité. Ce peut être la force, la suprématie d'un seul qui, physiquement, ayant prouvé sa domination, impose sa volonté à un groupe, une communauté ou une tribu. Cela peut être aussi une convention librement consentie entre des individus pour exclure ou sanctionner les déviants, les sujets menaçants pour la cohésion, voire la vie du groupe. Cela peut être aussi une délégation à un groupe de sages, de vieillards, de personnages réputés inspirés qui président aux destinées du groupe. Peu importe toutes ces formes, ce qui est patent, c'est que par-delà la violence native qui est toujours prête à surgir comme un monstre tapis à notre porte, il faut que l'ordre règne. Un ordre que chacun doit respecter, quand bien même des pulsions impérieuses nous porteraient à le faire exploser. Eh bien, le carnaval, c'est cette institution ancestrale que les hommes, certains diront les dieux, ont établi pour que l'ordre régnant, une soupape de sécurité encadrée, soit ménagée. Le carnaval, c'est cette libération provisoire, chaotique et anarchique, où chacun donne cours librement à ses pulsions, qui, en nous remettant en contact avec les forces vives qui nous animent, fussent-elles agressives, nous évitent l'apathie, la déprime, la neurasthénie que provoquent les refoulements et la frustration. Le carnaval, que bien avant nos formes christianisées, on retrouve toujours et partout, et ce temps où d'une part on s'autorise à vivre sans règles, ou en les tournant en dérision, en inversant par exemple les hiérarchies sociales, comme c'était le cas lors des Saturnales romaines, et où d'autre part on cherche à puiser dans le chaos le tohu-bohu originel et fondateur, les forces vitales puissantes antérieures à toute parole organisatrice du cosmos et finalement de notre vie commune. On parlerait peut-être aujourd'hui du Big Bang sociétal originel, source de tout ce qui existe. Certains parmi vous ont peut-être en tête ce film « La Purge », qui, dans une fiction produite en 2013, imagine une société où l'État décrète chaque année 24 heures de catharsis collective. Toutes les lois sont abolies, le crime devient légal, les services de police et d'urgence sont suspendus. Seul règne la seule loi de la jungle, où véritablement l'homme redevient un loup pour l'homme, pour que la nation, en se plongeant dans un bain de sang, ressuscite. C'est le texte même de la bande-annonce. Ce film tragique et sinistre illustre cette quête maudite commune à toutes les sociétés qui, pour purger la violence, s'y adonne pour un temps limité dans un paroxysme qu'elle croit salutaire. Alors vous comprenez maintenant pourquoi j'aurais aimé pouvoir dire ce matin « Le carnaval est fini ». Rien à vue humaine ne l'indique. Le carnaval tragique de notre monde semble sortir de ses bornes. J'ai l'impression que notre monde, de manière plus ou moins évidente, selon les événements et les lieux, est en train de sortir des sentiers qu'il avait patiemment, maladroitement parfois, mais néanmoins avec persévérance, balisé pour qu'un avenir demeure ouvert. Et d'ailleurs, ne l'avons-nous pas déjà expérimenté, que ce soit sous le fascisme et le nazisme, sous le communisme stalinien, ou de manière plus invisible à nos yeux lorsque des mafias de connivence avec de grands établissements financiers s'affranchissent de tout ce qui préservait une cohésion sociale, un peu de solidarité, un peu d'humanité simplement. Je pense à ces cartels de la drogue, mais aussi à ces lignes de passeurs sans scrupules, ces ligues de passeurs sans scrupules qui, au mépris de la vie, jettent sur nos plages inhospitalières ces dizaines de milliers de pauvres gens qui témoignent encore de l'espérance pour eux et leurs enfants qu'il existe un lieu, quelque part, où la vie peut être bonne, loin des guerres, loin de la misère noire, loin de la corruption, loin de la domination de l'esclavage. Et je pense, bien entendu, à ce terrorisme barbare et sanguinaire qui nous atteint et se développe. Pourtant, et c'est là le sens que je voudrais donner ce matin à notre entrée dans le carême, la vie bonne, la vie commune, fraternelle et solidaire n'est pas une vaine utopie. Une espérance est possible, une résistance est nécessaire, un témoignage est attendu. Comme l'a déjà souligné le pasteur Laurent Gagnebin dans son livre « Un christianisme en fête », nous pouvons sortir de notre réserve bien protestante à l'égard de ce temps liturgique d'entrée dans le carême et y trouver un sens renouvelé qui, loin des errements culpabilisants ou des contritions maladives, nous oriente dans une saine pédagogie vers le souci de l'autre, le souci du prochain comme du lointain, et restaure ainsi le socle d'une vie commune qui tient à distance le mal et maîtrise la violence. Ainsi, la scansion liturgique du temps de l'histoire est un combat qui désacralise les événements du moment, délivre nos regards sur l'actualité d'une sidération pétrifiée et nous redonne le goût de la responsabilité dans un monde où tous se demandent comment on en est arrivé là. Alors nous voici dans ce temps qui s'ouvre, invités à relire trois textes. Trois textes qui, au carrefour de toutes nos actualités, nous orientent et désignent des directions pour sortir du labyrinthe qui nous perd. Pour peu que nous ne nous enfermions pas dans une lecture fondamentaliste, stérile, ni dans une lecture historicisante ou psychologisante réductrice qui nous retiendrait dans le passé, nous pouvons trouver un sens spirituel et à vrai dire éthique à ces trois textes, pour nous tous ici rassemblés aujourd'hui. Le premier texte que je vous ai lu dans la Genèse est bien connu. Il rappelle cette promesse de Dieu. Tant qu'il y aura des hommes, je m'engage à préserver la création et tout ce qu'elle contient. Alors, dans ce temps où l'urgence climatique nous interroge, dans ce temps où les États semblent impuissants, dans ce temps où les institutions internationales sont bafouées, dans ce temps où les libertés désorientées comme des poulies folles méprisent la fraternité, il est bon d'entendre une parole d'espérance, de résistance et de responsabilité. Une parole qui nous engage ici et maintenant. Nos aïeux croyaient que la colère des dieux était à l'origine de bien des catastrophes et de nombre de crimes et de violences qui pouvaient s'abattre sur l'humanité. Nos ancêtres avaient inventé bien des exorcismes pour conjurer la peur panique qui parfois les prenait lorsque le sol, leur monde, se dérobait sous leurs pieds. Nous savons aujourd'hui que le carnaval tragique et sans fin que nous avons le sentiment de vivre n'est pas le fruit d'un destin imposé par une volonté mystérieuse, un dessein obscur qui nous échappe et nous dépasse. Nous savons que si nous le voulons bien, même si à vue humaine tout ce qui faisait notre environnement est déstabilisé, en péril peut-être, en confiance, nous savons qu'il est possible de réagir, de faire œuvre nouvelle. Les dieux auxquels nous avons cru, l'argent, la performance, le nationalisme, la démesure, l'individualisme, la sécurité, la technique, ne sont que des idoles éphémères que nous nous fabriquons parce que la confiance et l'espérance nous ont fait défaut et que nous avons voulu y substituer nos œuvres. Avec ce texte qui nous parle de Noé, nous redécouvrons que, quoi qu'il arrive, la vie qui nous a été promise et offerte demeure, quand bien même elle serait vulnérable et fragilisée, comme Noé l'a éprouvé. Noé s'est fabriqué une arche sécurisée dans laquelle il a enfermé ses proches et tout ce à quoi il tenait. Mais surtout, Noé a eu le courage de quitter l'arche. Malgré la grande peur, il a su voir les signes d'un renouveau. Malgré le grand cataclysme, il a eu l'audace confiante de restaurer une vie commune, de rebâtir une nouvelle cité, une nouvelle civilité qui, dans l'espérance et la persévérance, ouvrait à nouveau la possibilité de célébrer, d'honorer, de féconder une terre nouvelle, accueillante à nouveau pour une humanité renouvelée et heureuse. Ainsi, en ce premier dimanche de carême, contre tous les carnavals absurdes qui nous minent, nous savons que l'espérance de Noé est toujours à l'œuvre, que des arcs-en-ciel sans cesse se présentent à nous, nous maintiennent debout et responsables sur le socle inébranlable d'une création que Dieu a voulu bonne et durable pour chacun de nous et nous tous. Mais encore faut-il que nous nous emparions de cette espérance. Encore faut-il que nous n'en fassions pas un oreiller de paresse démobilisateur. Le carême n'est pas, je le disais, un temps de sombre contrition et de repli morbide sur les erreurs, les peurs, les paralysies du moment. Le carême inaugure aussi un combat, une résistance. Et le deuxième texte que nous avons lu dans l'évangile de Marc illustre cela de manière lumineuse. De l'audace, il en faut. Et quelques hésitations ne sont pas étranges. Comme un cheval rétif, nous pouvons nous cabrer devant l'obstacle. D'ailleurs, à ce sujet, comme je le disais tout à l'heure, il est bon de rappeler que le verbe employé par l'évangéliste pour qualifier la mise en condition de Jésus envoyé au désert pour y être tenté et finalement en sortir vainqueur n'indique pas un temps serein. Jésus, littéralement, est bousculé, projeté au désert pour aller au-devant de la tentation. Tentation sur laquelle Marc est discret, sinon que l'on sait qu'un adversaire est présent. Sur le chemin de la résistance responsable, sur la route de la confiance, l'adversaire se dresse. La crainte de ce qui nous plonge dans le désarroi, la peur qui nous prend aux entrailles, peuvent nous conduire à l'inaction, pire, au silence complice du mal qui rôde. Et, excusez la trivialité du propos, mais comme le disait l'écrivain Max Frisch, il y a pire que le bruit des bottes, c'est le silence des pantoufles. Jésus lui-même, comme d'ailleurs à Gethsémané, a dû prendre sur lui pour aller au-devant de cette vie risquée, où l'on sait par un autre évangéliste qu'il s'agissait de résister à toutes les pseudo-conforts que procure une vie étayée par des certitudes intouchables, confortée par des désirs toujours rassasiés ou des pouvoirs toujours assouvis. Il lui fallait se dépouiller, se mettre à nu, ne garder pour seules armes que la confiance et l'espérance, et de plus, un certain sens de la responsabilité adossé à la conviction d'un appel, d'une vocation. Car il ne s'agit pas de s'engager, de gagner l'estime de soi en ayant la volonté de réaliser de belles et bonnes œuvres. Il s'agit, fût-ce à son corps défendant, de répondre à un appel, d'obéir à une exigence, faute de quoi les résistants d'un jour seront les puissants, voire les tyrans de demain. Mais par contre, celui qui ne peut pas faire autrement, celui qui, comme Jésus, est jeté dans le désert aride de la lutte, comme l'ont été Luther, Dietrich Bonhoeffer, Martin Niemöller ou d'autres encore plus près de nous qui ont risqué et donné leur vie pour dénoncer la corruption, mettre à jour le mensonge, révéler les connivences secrètes. Ceux-là, convaincus de leur propre fragilité, mais trempés comme l'acier par l'épreuve des tentations, ceux-là mettent en fuite, comme Jésus au désert, les suppôts de la compromission, les faux prophètes de la démesure, les partisans de la domination. Ceux-là mettent en lumière la faiblesse honteuse de ceux qui, s'abritant derrière la maxime complaisante « Après moi le déluge », sont aveugles aux naufrages présents et à venir. Car ce qui est en jeu, le salut dont on parle, n'est pas le sort qui me sera réservé à l'heure de ce jugement problématique rejeté dans un avenir lointain, mais bien l'injonction impérieuse à la suite de Jésus-Christ de libérer les captifs, de restaurer la vie là où elle est abîmée, bafouée, ensevelie dans tous les tombeaux de nos errances. Et le troisième texte que nous avons lu dans l'épître de Pierre nous suggère ici un itinéraire qui dessine les contours d'une mission, d'un témoignage qui nous incombe. Jésus, l'envoyé, l'homme tenté, l'homme traversé par un appel décisif et contraignant à agir pour les autres, a passé sa vie à s'oublier, à se démunir, pour que d'autres soient dans la gratitude, la reconnaissance et l'abondance d'une vie ranimée dans la plénitude de ce qu'avait voulu le Créateur. Fort de sa lutte victorieuse qu'il remet à celui qui l'avait assuré, son Père, il va tendre la main à ceux qui sont les plus lointains de nos frères, enfermés qu'ils sont dans la nuit de la mort, de toutes les morts qui sans cesse nous assaillent. Au plus près des plus loin, emprisonnés par la légion des démons, Jésus va leur annoncer qu'ils ne sont pas oubliés, que leurs enfermements ne sont pas définitifs, éternels, qu'ils sont eux aussi dans le coup, concernés eux aussi par la longue marche de la libération offerte à tous. Ainsi, comme lui, faisant peu de cas de nos sécurités, prêts à tout instant à abandonner nos refuges, nous pouvons être ces lanceurs de bouées, ces semeurs de liberté qui s'inquiètent du sort de leurs frères. L'Église, cette communauté des appelés, cette assemblée constituante d'une humanité récapitulée dans la vraie vie, n'est pas une communauté identitaire repliée sur elle-même. Elle est ce lieu et ce temps où, dans la célébration de la mémoire de celui qui l'a fondé et en trace le chemin, se forge le souci des autres, le soin à apporter à ceux à qui tout a manqué, même la vie. L'Église est cette brèche entretenue en permanence pour que le monde autre auquel la création aspire advienne par des regards qui transfigurent, des paroles qui sauvent, des gestes qui relèvent. L'Église est alors tout entière servante et diaconale. Mes frères, mes sœurs, le carnaval maintenant se meurt. La mauvaise vie peut rendre l'âme. Le carême qui s'ouvre inaugure ce monde nouveau qui, par-delà la mort, la résurrection de Jésus-Christ, les épreuves qu'il a traversées, nous achemine, l'espérance chevillée au corps, vers ce temps où chacun, dans une fraternité irréductible, se donne sans retenue pour que tous vivent. Cette parole n'est pas dans le ciel, elle n'est pas au-delà des mers, elle est là tout près, dans notre cœur et notre bouche, pour que nous la mettions en pratique dès maintenant. Amen.